Bonjour à tous, internautes et auditeurs, et bienvenue à ce septième cours du cycle sémantique mécanisée, qui est consacré à la sémantique d'un langage fonctionnel. Alors initialement, j'avais prévu ce cours en deuxième position, juste après le cours où on a introduit IMP, c'est-à-dire le prototype des langages impératifs, comme une espèce de contrepoint, montrer comment les mêmes techniques, ou des techniques très proches en tout cas, permettent de mécaniser des langages assez différents. Bon, les hasards de l'actualité en ont voulu autrement. Et donc, on a fait en fait tout le cours sur des langages impératifs, sur IMP. Et c'est aujourd'hui seulement qu'on va changer de paradigme et donc passer au langage fonctionnel. Alors, qu'est-ce qui oppose impératif et fonctionnel, sachant évidemment ce sont deux traits qu'on retrouve ensemble dans beaucoup de langages de programmation. Donc, du côté impératif, comme on l'a vu dans IMP, exécuter un programme, c'est modifier un état, c'est changer le monde. Et l'opération de base, au moins pour IMP, c'est l'affectation, changer le contenu d'une case mémoire, d'une variable. Au-dessus de ça, on avait des structures de contrôle, essentiellement la conditionnelle et des boucles, et peu de types de données. Bon, dans IMP, on n'a que des nombres. Dans d'autres langages, on a aussi des chaînes de caractères, etc. Et à l'opposé, donc, avec FUN, qui est le petit langage fonctionnel qu'on va introduire aujourd'hui, exécuter un programme, c'est simplement calculer la valeur d'une expression. Il n'y a pas d'effet autre que cela, si ce n'est éventuellement ne pas terminer. Les deux opérations de base sont liées aux fonctions. C'est d'un côté définir des fonctions et de l'autre les appliquer. Et dans les structures de contrôle, on va retrouver une conditionnelle, cette fois-là vue comme une expression conditionnelle, et la récursion un petit peu aussi. Et la grande différence, c'est que c'est un langage d'ordre supérieur, au sens où parmi les données, il y a également les fonctions. Les fonctions elles-mêmes sont des valeurs de première classe, comme des nombres, comme des booléens, comme des chaînes de caractères, peuvent être prises en argument, renvoyées en résultat d'autres fonctions. Alors, comme beaucoup de langages fonctionnels, on va obtenir IMP en appliquant une recette. La recette consiste à partir du lambda calcul, le formalisme, le grand ancêtre, le formalisme sous-jacent à de nombreux langages fonctionnels, et puis corriger un certain nombre de manques ou de défauts du lambda calcul vu comme un langage, à savoir ajouter une stratégie de réduction, ajouter des types de données primitifs, ajouter un système de type, dynamique ou statique, nous ce sera plutôt statique, et ça va donner notre langage fonctionnel. Alors, commençons par un petit rappel de lambda calcul. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, on en a déjà beaucoup parlé également dans le cours de l'an dernier sur la correspondance de Curry-Howard. Donc introduit au début des années 1930 par Alonzo Church, qui se compose de termes, d'expressions, qui sont de trois sortes. Donc, il y a des variables, x, y, z, en nombre arbitraire. Il y a l'abstraction de fonction, la fonction qui x associe le terme m, et qu'on note lambda x.m, parce que la notation de droite, qui est plus courante maintenant en mathématiques, a été introduite après la guerre par Bourbaki. Donc, Church, lui, avait choisi la lettre lambda pour marquer la liaison, la définition d'une fonction. Et puis, l'application de fonction, fonction m appliquée à l'argument n. Et essentiellement, c'est tout. Dans les premiers travaux de Church, il y avait d'autres choses. Il voyait le lambda calcul comme une logique. Donc, c'était un langage de proposition. Donc, il y avait aussi des connecteurs logiques. Mais finalement, ça n'a pas très bien marché comme logique. En revanche, ça s'est révélé... juste ces trois constructions se sont révélées beaucoup plus intéressantes comme modèle de calcul. Et donc, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, sur ces termes, on a une règle structurelle qui est l'alpha-conversion, qui formalise l'idée qu'une variable liée peut être renommée. Le nom d'une variable liée, c'est aussi ce qu'on appelle une variable muette en mathématiques, c'est le x dans lambda x.m, et donc lambda x.m, c'est aussi la même chose que lambda y ou m, on a renommé x en y, d'accord, pourvu que y soit non libre dans m. Donc ça, c'est cette intuition que le nom précis des variables liées n'a pas d'importance. Et puis, il y a une règle de calcul, qui est la bêta-réduction, qui dit que si vous avez une abstraction de fonction, lambda x.m, appliquée immédiatement à un terme n, alors vous pouvez réduire ça en le corps de la fonction m, où le paramètre formel x devient l'argument effectif n. Donc ceci est une substitution textuelle, un remplacement des occurrences libres de x par n. Alors, c'est vraiment minimale, d'accord, trois constructions, une règle de calcul, et pourtant c'est un système qui a d'extrêmement bonnes propriétés. En particulier, il est Turing complet, donc c'est un modèle de calculabilité équivalent aux machines de Turing. Alors, quelques bonnes propriétés, c'est important, ce qu'on appelle la confluence des réductions. Donc, la bêta-réduction, on peut la faire à divers endroits dans un terme. Il peut y avoir plusieurs endroits où on peut l'appliquer. Donc, partant d'un terme M et faisant des séquences de bêta-réduction, vous pouvez diverger. D'un côté, vous arrivez sur M1, de l'autre sur M2. Et la propriété de confluence, donc montrée par Church et Rosser en 1935, c'est que vous pouvez toujours refermer le diagramme sur un réduit commun M'. Et c'est un corollaire intéressant, qui est que donc, le calcul, dans l'exécution d'un lambda terme, c'est le réduire, le bêta réduire jusqu'à obtenir une forme normale, c'est-à-dire un terme qui ne se réduit pas. Et le corollaire intéressant, c'est que si un terme a une forme normale, cette forme normale est unique. En revanche, un terme peut également diverger, avoir une séquence infinie de réduction. Donc oui, l'expressivité du lambda calcul, comme je l'ai mentionné, donc le lambda calcul est Turing complet, et donc non seulement il peut exprimer des machines de Turing, mais il peut aussi exprimer, via des collages fonctionnels, en fait, tous les types de données usuelles, les entiers, les paires, les listes. Là, je vous donne l'exemple du collage de Church des entiers. L'entier n est vu comme la fonctionnelle, la fonction qui prend une fonction f et vous renvoie f itéré n fois. Donc un entier, c'est un itérateur, d'accord ? C'est quelque chose qui compose son argument avec lui-même n fois. Donc l'entier 0, c'est l'identité. Pardon, ça prend lambda f et ça vous renvoie l'identité. L'entier 1, ça prend f et ça vous renvoie f, et ainsi de suite. Et on peut faire de même pour les autres types de données usuelles. Et puis, on a également la récursion générale via des combinateurs de points fixes. Ça, c'est des termes un peu étranges aussi, mais donc ce combinateur Y, qui est dû à Curie, qui a cette propriété remarquable que si vous l'appliquez à une fonctionnelle f, alors il se réduit en f appliqué à lui-même, yf. Et ça, c'est essentiellement le déroulage d'une récursion. D'accord ? C'est ce qui vous suffit, en fait, pour réaliser un point fixe de l'opérateur grand F. Bien, donc le lambda calcul, c'est génial, et pourtant, ce n'est pas vraiment un bon langage de programmation. Alors pourquoi ça ? Premièrement, parce qu'il y a peu de contrôle sur la terminaison et la complexité des calculs. Comme on l'a dit, il y a plusieurs manières d'enchaîner les bêta-réductions et de choisir où est-ce qu'on les applique, quel bêta-redex, quel endroit où on peut faire une bêta-réduction va être réduit en premier. Et suivant la manière dont on choisit ces redex et dont on enchaîne les bêta-réductions, un calcul peut diverger ou bien terminer. Un calcul peut terminer lentement ou rapidement. Donc ça peut aller de linéaire à exponentiel très facilement, juste en prenant la bonne ou la mauvaise stratégie. Donc ça, c'est pas terrible pour programmer. En général, on a quand même envie d'un peu plus de déterminisme afin de contrôler la complexité et la terminaison de nos programmes. Deuxième point limitant, c'est les codages fonctionnels. Donc, ils sont peu naturels. Ça demande un petit peu d'imagination quand même pour reconnaître l'entier n là-dedans. Ils sont généralement inefficaces. Donc ça ne va pas s'exécuter aussi vite sur votre processeur de votre portable que des entiers machines 32 bits ou même des entiers en précision arbitraire que vous pourriez coder au-dessus. Et puis, les codages sont souvent non typables dans les systèmes de type usuel, en particulier le Y, le combinateur qu'on a ici. Et ce qui est un peu dommage, parce qu'on peut vouloir à la fois le combinateur Y et du typage statique. Alors, pour remédier au premier problème, celui du contrôle de l'évaluation, eh bien, il faut se fixer des stratégies de réduction, donc déterminer la manière dont on applique la bêta-réduction à chaque étape de calcul. Alors il y a deux dimensions, deux grandes dimensions, deux choix principaux à faire. L'un c'est entre la réduction forte ou la réduction faible, et l'autre c'est entre l'appel par nom et l'appel par valeur. Donc réduction forte ou faible, la question est de savoir si on réduit sous les lambdas, si j'ose dire. Donc dans une réduction faible, le corps d'une fonction n'est jamais évalué à l'avance, on ne fait pas de bêta réduction à l'intérieur d'une lambda. On attend que la lambda soit appliquée. On attend que par la règle bêta, son corps M soit exposé, et c'est à ce moment-là seulement qu'on réduit à l'intérieur. En réduction forte, on se permet de réduire, de simplifier, de calculer dans le corps d'une fonction avant qu'elle ne soit appliquée. Donc ça, ça ressemble plus à du calcul symbolique, parce que maintenant, on a des variables qui peuvent être libres, donc on ne peut pas forcément tout réduire. Et donc, en général, les langages de programmation fonctionnelle font juste de la réduction faible, et la réduction forte sert plutôt dans des systèmes comme des assistants de preuve, comme Coq, ou des systèmes d'optimisation, ou d'évaluation partielle, ou de calcul symbolique. Alors l'autre choix, c'est entre appel par nom ou appel par valeur. Donc quand vous avez une application de fonction, M appliqué à N, est-ce que l'argument doit être évalué ou non avant d'être passé à la fonction ? Donc dans l'appel par valeur, là on dit oui, on se force à réduire l'argument en une valeur, c'est-à-dire une forme normale, par exemple, et seulement à ce moment-là, on déclenche la bêta-réduction, c'est-à-dire qu'on va remplacer le paramètre formel par la valeur de l'argument. Et en appel par nom, en fait, on ne met pas cette contrainte, donc le paramètre formel il est remplacé par le terme l'argument n non évalué. Et c'est seulement si le corps de la fonction m a besoin un jour de la valeur de x que l'évaluation va se déclencher. Donc c'est une évaluation qui est beaucoup plus à la demande. Et donc là encore, beaucoup de langages de programmation connus sont en appel par valeur. Alors les deux exceptions connues, c'est Haskell, qui fait de l'appel paresseux, qui est une optimisation de l'appel par nom. Et puis historiquement, Algol 60, dont on avait parlé au tout début, qui aussi avait une sémantique qu'on appelle par nom, ou la copy rule, où l'argument est copié à l'intérieur du corps de la fonction. Alors, comment on spécifie une de nos stratégies ? Il y a plusieurs styles. Celui que je vais utiliser en priorité, c'est le style dit SOS, Structural Operational Semantics, donc qui est dû à Gordon Plotkin. Et en fait, c'est issu de notes qu'il avait publiées en 1981 comme un rapport technique d'une université au Danemark où il était en visite. Et puis le texte a été tellement cité et est devenu tellement un texte de référence qu'il a quand même fini par le publier en revue en 2004. Et donc le style SOS, c'est très simple. On voit la relation de réduction, M se réduit en M'. Comme le terme M tout entier se réduit en le terme M', donc on ne peut pas l'appliquer n'importe où à l'intérieur d'un terme, d'un sous-terme. Ce n'est pas une règle de réécriture, c'est juste une relation, et qui est définie par des axiomes et des règles. Donc à gauche, je vous ai donné les axiomes et les règles de l'appel par nom faible. Donc premièrement, on peut faire des bêta-réductions. Si on a en tête du terme, on a un bêta-réduction, on peut faire la bêta-réduction même si l'argument N n'est pas évalué. Ça, c'est l'appel, le côté faible. Et puis, on a une règle qui nous dit qu'on peut réduire à gauche d'un nœud d'application. Donc si la partie fonction M de l'application MN se réduit en M', alors l'application MN se réduit en MM'N'. Et l'idée, c'est qu'en enchaînant ces réductions, on va finir par réduire M jusqu'à une lambda. À ce moment-là, la première règle pourra s'appliquer, on pourra continuer le calcul. En revanche, on s'interdit de réduire à droite de l'application, on s'interdit de réduire sous un lambda. D'accord, il n'y a pas de règle pour faire ça. Alors l'appel par valeur faible, on restreint la bêta-réduction. Donc on ne peut bêta-réduire que si l'argument est une valeur. Donc une valeur ici, c'est juste une lambda, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas évaluer davantage, on est en évaluation faible, rappelez-vous. Donc on ne peut substituer l'argument par le paramètre par l'argument que si l'argument est une valeur. Et du coup, on a des règles de contexte supplémentaires qui vont nous permettre de réduire cet argument en une valeur. Donc la première règle, c'est la même que précédemment. On peut réduire à gauche d'une application. Et la deuxième règle, qui est qu'on peut réduire à droite d'une application, on peut réduire la partie argument, à condition qu'on ait déjà réduit à gauche. Donc ça, en une valeur. Donc ça, ça évite l'ambiguïté de savoir est-ce que je regarde à gauche de l'application ou est-ce que je regarde à droite. Il faut toujours commencer d'abord à gauche, jusqu'à avoir une valeur, et à ce moment-là seulement à droite. Jusqu'à ce qu'on réduise l'argument n soit réduit en une valeur, auquel cas on peut bêta réduire et continuer le calcul. Voilà, donc c'est tout à fait simple et ça se mécanise très simplement. Je vous le montre très rapidement. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Une autre présentation un peu plus récente et tout à fait équivalente, ça utilise des contextes, des. Donc, elle est due à Wright et Feleisen, en 1994. L'idée, c'est qu'il y a une règle générique de réduction sous un contexte, qui dit que si vous avez un redex que vous pouvez réduire par une règle en tête, par une réduction en tête M en M', et un contexte d'évaluation. Donc un contexte, c'est un terme avec un trou, d'accord, qui a une bonne forme. Alors, E de M, donc le contexte où dans le trou il y a le terme qu'on peut réduire, se réduit en E de M'. Et maintenant, pour chaque stratégie, donc cette règle elle est commune à toutes les stratégies, et pour chaque stratégie, on a des axiomes pour cette réduction en tête et une grammaire qui nous dit quels contextes sont valides et où est-ce qu'on peut faire des réductions en tête. Comment est-ce qu'on... Donc pour l'appel par un nom faible, la règle de réduction en tête, c'est la bêta-réduction, sans restriction. Et la grammaire des contextes, elle nous dit qu'un contexte valide, c'est soit le trou, donc ça veut dire qu'on peut réduire en tête, soit une application avec à gauche un contexte, donc un terme qui contient un trou, et à droite un terme. Et donc comme le trou est forcément à gauche de l'application, on ne peut réduire que dans la partie fonction d'une application, mais pas dans la partie argument. Pour l'appel par valeur faible, on restreint la réduction de tête. Maintenant, c'est la bêta-réduction par valeur. Si on évalue de gauche à droite les applications, on a ça comme grammaire des contextes, un trou, ou bien un contexte appliqué à n, donc le trou maintenant est à gauche, ou bien une valeur appliquée à un contexte, le trou maintenant à droite, et on peut réduire dans l'argument. Après, si vous préférez évaluer vos applications en commençant par l'argument puis en faisant la fonction, comme dans OCaml, notre langage fonctionnel favori, eh bien, il n'y a qu'à changer un tout petit peu la grammaire des contextes, d'accord, en disant qu'on peut toujours réduire à droite, d'une application, donc M appliqué à E, c'est un contexte. En revanche, pour réduire à gauche, il faut qu'à droite, on ait déjà une valeur, donc E appliqué à V est un contexte. Voilà, donc c'est une notation extrêmement compacte pour spécifier des différentes stratégies. Alors, on peut aussi faire de la sémantique naturelle. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait fait pour IMP, d'accord ? On avait, d'une certaine manière, cherché à résumer les suites finies de réduction vers SKIP, vers un programme qui se termine, qui correspond à une exécution qui se termine. On avait cherché à les résumer par un prédicat et des règles d'inférence pour ce prédicat, qui suivent à peu près la structure de la commande. Alors on peut faire la même chose. On peut étudier les suites finies de réduction vers une valeur. Donc M se réduit en V, qui ne se réduit plus. Et abstraire ça par un prédicat M flèche vers le bas V, qui veut dire le terme M s'évalue en la valeur V. Et là aussi, on obtient des règles qui sont tout à fait intuitives. Par exemple, pour l'appel par nom faible, une lambda abstraction s'évalue en elle-même. D'accord, c'est déjà une valeur. Et une application, M appliquée à N, s'évalue en V, termine et s'évalue en V, si la partie fonction M s'évalue en une lambda abstraction, et si on remplace maintenant le paramètre formel par l'argument effectif N dans cette lambda abstraction, on s'évalue en la valeur V. Et cette valeur, c'est la même chose que la valeur de l'application. Alors ici, je n'ai pas mis de règles pour les variables. En plus, on ajoute la contrainte qu'on n'évalue que des termes clos. Et l'appel par valeur, faible, y a juste la règle de l'application qui change. Maintenant, non seulement la partie fonction doit s'évaluer en une lambda, la partie argument doit s'évaluer en une valeur V', et c'est cette valeur qu'on met à la place de X dans le corps de la fonction qui doit s'évaluer en V. Bon, donc jusqu'ici, rien de très surprenant. Là maintenant, pour ce qui est de l'autre restriction, l'autre limitation, à savoir d'être obligé de coder de manière fonctionnelle les types de données qui nous intéressent, en fait, c'est facile d'ajouter des types de données primitifs, une espèce de recette qu'on peut appliquer de manière répétée, et qui consiste à ajouter des formes syntaxiques à la grammaire des termes, des règles de réduction en tête, et des cas pour les valeurs et pour les contextes. Donc notre point de départ, ça va être l'appel par valeur faible, que je vous ai résumé ici. Donc les termes, c'est ceux du lambda calcul pur, les valeurs, c'est les lambdas, les contextes, c'est ceux de l'appel par valeur faible de gauche à droite, et il y a une seule règle de réduction en tête, qui est la bêta par valeur. Maintenant, si je veux mettre des booléens dans mon langage, j'ajoute trois termes, des constantes vraies et faux, et puis une expression conditionnelle, que je note if M1, M2, M3, c'est si M1, alors M2, sinon M3, ou M1, point d'interrogation, M2, 2, point M3, si vous aimez C ou Java. Parmi les valeurs, les true et false sont des valeurs, mais pas le if. Dans les contextes, je me donne le moyen de réduire dans la partie condition d'un if, mais pas dans la branche then ni dans la branche else. Et j'ai deux réductions en tête qui me disent que if true, si la condition est le booléen true, alors je me réduis en M2, la partie then, et si c'est false, je me réduis en M3, la partie else. De même, si je veux ajouter les entiers naturels, dans le style de Peano, 0 et successeur, ben j'ajoute dans mes termes 0, successeur d'un terme, et puis un test à 0, qui en fait est une espèce de pattern matching, d'accord ? If 0, M1, M2, M3, qu'on peut lire comme match M1 with 0, flèche M2, S de X, flèche M3 de X. D'accord. Et d'ailleurs, on le voit ici dans les règles de réduction. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Les valeurs, 0 est une valeur, successeur d'une valeur est une valeur. D'accord. Donc on a les valeurs entières qui sont successeurs de successeurs de successeurs de 0. Et puis, dans les contextes, on peut réduire sous un successeur ou dans la partie de discriminant d'un if 0. Alors, encore un petit coup. Vous voyez que ça marche de manière très systématique. Les produits et les sommes. Donc là, j'ajoute des paires de termes, projection, première projection d'un terme, deuxième projection d'un terme, injection gauche d'un terme, injection droite d'un terme, analyse de cas sur le terme M, est-ce qu'il est de la forme left ou right ? S'il est de la forme left, je fais M1, s'il est de la forme right, je fais M2, comme vous le voyez ici. De même, les projections, si je projette sur une paire, j'envoie la première ou la deuxième composante de la paire. Et puis, dans les valeurs, j'ai des paires de valeurs, j'ai left d'une valeur, right d'une valeur, et dans les contextes, j'ai ce qu'il faut pour réduire à l'intérieur des paires, sous les first, sous les left, sous les right, et dans la partie discriminante du case, afin de construire des valeurs qui ont cette forme et de pouvoir les analyser par ces règles. Et puis, dernier point, c'est le dernière extension, c'est le point fixe, donc, qui nous permet de coder les fonctions récursives. Et essentiellement, c'est un combinateur fixe, qu'on ajoute au terme, aux valeurs et au contexte, avec cette équation, cette loi de réduction, qui est fixe d'une fonctionnelle, donc d'une valeur qui est une fonctionnelle, donc fixe de VF, moralement, c'est la trek F égale VF de F, d'accord, in F. Et ici, on fait le déroulage, fixe de VF se déroule en VF de fixe de VF, seulement si on applique à une valeur. Donc c'est ça qui empêche de dérouler infiniment dès le début, sans jamais appliquer. Voilà. Donc maintenant, on va regarder comment on peut mécaniser ça. Donc c'est un fichier coq qui s'appelle fun, dans le fun.v, dans le développement coq qui va avec le cours. Donc là, je vous fais le lambda calcul étendu avec les booléens. Donc vous voyez les trois constructions du lambda calcul, var, abs, app, et puis les constantes booléennes, var et faux, et la conditionnelle, le if, then, else. Et donc les valeurs sont les abstractions de fonctions, les constantes booléennes. Alors, pour ce qui est de la substitution, on va revenir dessus après. Donc, l'idée, c'est que c'est une fonction qui, étant donné un terme A, X, et une variable X et un terme C, vous renvoie A où X est substitué par C. Donc là, on a la sémantique à réduction. Red A'. A se réduit en une étape vers A'. Donc ça, c'est exprimé dans le style SOS, de Structured Operational Semantics. Donc vous voyez ici les deux règles de réduction en tête, la bêta réduction, on l'appelle par valeur, app de abs x a v, qui se réduit en le résultat de la substitution, et puis une conditionnelle dont la condition c'est une constante, vrai ou faux, se réduit soit dans la partie then, soit dans la partie else. Et puis trois règles de contexte qui nous permettent de réduire à gauche d'une application, à droite d'une application, si on est déjà réduit à gauche, mes commentaires ne sont pas très bien formatés, excusez-moi, et dans la partie discriminante d'un compte. Alors bien sûr, vous pouvez aussi mettre une sémantique en appel par nom, c'est pas compliqué. D'ailleurs, c'est assez amusant dans ce fichier d'essayer de changer des petites choses et de voir jusqu'à quel point toutes les démonstrations ensuite passent. Vous pouvez ajouter d'autres extensions, des entiers de Peano, des produits, des sommes, le point fixe. Là, pour varier un peu, je vous ai fait la présentation de Wright et Felizon, avec d'abord les réductions en tête de termes, donc juste la bêta réduction par valeur et la réduction des conditionnels en tête. Les contextes vont être représentés par des fonctions coques, des termes dans les termes. D'accord. Donc E crochet M, ça va être juste l'application de la fonction E à M. Mais bien sûr, toutes les fonctions, les termes dans les termes, ne sont pas un contexte bien formé, ce ne sont pas des termes à trous qui respectent la grammaire. Donc la grammaire, on la force en fait par un prédicat inductif, isContext, qui vous prend une fonction de terme flèche terme et qui dit si on peut la dériver dans la grammaire des contextes. Par exemple, on peut dériver que A flèche A, c'est un bon contexte parce que c'est le trou, c'est le contexte de base. Et du coup, on a la relation de réduction sous contexte. Si vous avez une réduction en tête de A vers A' et un contexte C, alors vous avez une réduction de C de A vers C de A'. Et des résultats d'équivalence avec la présentation SOS qui ne sont pas très compliqués. Moralement, un contexte est isomorphe à une dérivation d'évaluation dans l'approche SOS. Et puis là, on a la sémantique naturelle. Donc encore une fois, donc les abstractions qui s'évaluent en elles-mêmes parce que ce sont des valeurs. La règle de l'application qui dit qu'il faut évaluer A1 en une abstraction, A2 en une valeur, évaluer le corps de la fonction, et ça vous donne la valeur de l'application. Une constante booléenne s'évalue en elle-même, et pour une condition conditionnelle, on évalue A, le discriminant, en un booléen, et suivant la valeur de ce booléen, on évalue la branche then ou la branche else. Et donc là, on a des propriétés de bon sens. Le résultat d'un eval est une valeur. Une valeur s'évalue en elle-même, et on a une équivalence entre la sémantique naturelle et la sémantique à réduction, au sens qu'il existe une suite de réduction depuis A vers la valeur V. Donc là, les deux équivalences sont démontrées avec essentiellement les mêmes techniques qu'on a déjà utilisées pour IMP. Donc tout va bien, sauf un petit point un peu étrange quand même, sur l'alpha-conversion et la substitution. Donc rappelez-vous l'alpha-conversion, l'idée que lambda x, le x dans lambda x n'a pas, peut être renommé. Lambda x.x est la fonction identité, mais lambda y aussi. Et or, dans notre développement coq, on ne fait pas du tout ça. D'accord, abs de lambda xx est représenté par le constructeur abs appliqué à la chaîne de caractères x, et puis à var appliqué à la chaîne de caractères x. Et ça, ça n'est nullement égal à abs de y, var de y. La chaîne x n'est pas égale à la chaîne y, et puis c'est tout. Et là où ça pose un peu problème, c'est quand on veut définir la substitution. En particulier, donc on a une définition relativement naïve, qui dit, soyons honnêtes, qui dit que pour substituer dans une lambda, x par n dans lambda x.m, eh bien, on substitue x par n dans le corps de la lambda, et puis on remet la lambda autour. Et ça, c'est pas bon en général, ça fait ce qu'on appelle des captures de variables. Si vous avez lambda y.x, qui est une fonction constante qui renvoie x, et que vous remplacez x par y, maintenant y c'est une variable libre, vous devriez obtenir la fonction constante qui renvoie y. Or, vous obtenez la fonction lambda y, c'est-à-dire l'identité. Donc ce qui se passe, c'est que ce y qui était libre a été injecté dans le corps sous le lambda y et capturé par ce lambda y. Et ça, c'est une erreur de débutant, une erreur connue, et on en reparlera longuement la semaine prochaine dans le séminaire. Aujourd'hui, on va s'en tirer, on va vivre sans alpha-conversion. Et pour ça, on va observer que cette définition naïve, elle est quand même juste dans un cas, un peu comme une horloge arrêtée qui donne l'heure juste une fois, deux fois par jour, elle est correcte si le terme n est clos, c'est-à-dire ne contient pas de variable libre. À ce moment-là, on peut bien mettre n sous n'importe quel lambda, on ne peut pas capturer une de ces variables libres, il n'y en a pas. Et par un heureux hasard, la réduction d'un terme clos, un programme complet, un programme où il n'y a pas de variable libre, un programme où toutes les variables sont liées par des lambdas, ne met en jeu que des termes clos. C'est une bêta-réduction ne peut pas faire apparaître de variables libres. Elle peut en faire disparaître, mais pas apparaître. Donc vous partez d'un programme clos, et puis au bout d'un moment, il se réduit en un bêta-redex, d'accord. Donc forcément, la partie fonction est close, la partie argument est close, et si vous remplacez x par n dans m, n est bien clos, donc il n'y a pas de capture possible. Et qui plus est, le résultat de la substitution est clos, puisque la fonction était close, donc dans m, la seule variable libre au plus, c'est x. Là, vous la remplacez par un terme clos, donc tout est clos. Il n'y a plus de variable libre. Excusez-moi. Et donc, on obtient une sémantique qui est correcte, mais pour les programmes complets uniquement, pour les programmes qui sont clos. Et plus tard dans le cours, et surtout la semaine prochaine, on verra comment faire mieux. Mais pour le moment, non, je voudrais vous parler un peu de typage. Alors, le typage n'est pas le propre des langages fonctionnels. Vous pouvez mettre des systèmes de type sur des langages impératifs, sur des langages logiques, sur des langages à objets, sur plein de choses. Simplement, il apparaît, le besoin de typage apparaît beaucoup plus vite dans les langages fonctionnels. Et historiquement aussi, c'est dans ce cadre que les systèmes de type modernes ont été développés. Alors pourquoi on ressent un besoin de typage ? Dès qu'on ajoute au lambda calcul des types de données, comme par exemple les booléens, apparaissent des termes absurdes. D'accord. Par exemple, trou appliqué à lambda xx, donc la constante trou est utilisée comme une fonction, ou bien if lambda xx, then m else m', une fonction utilisée comme un booléen. Donc ça, c'est absurde au sens de la sagesse populaire, d'accord, qui dit qu'on n'additionne pas les choux et les carottes, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, on n'applique pas les booléens et on ne teste pas les fonctions. Bon. Et alors, comment est-ce qu'on va gérer ces termes étranges qui apparaissent ? Il y a l'approche dynamique et l'approche statique. L'approche dynamique, c'est au moins détectons ces absurdités durant l'exécution et signalons-les clairement à l'utilisateur sous forme d'un message d'erreur. Donc, par exemple, on commence ici avec un programme qui n'est pas de manière évidente absurde, d'accord ? Mais après quelques bêta-réductions, on fait un test sur une fonction. Et là, l'implémentation du if dit « non, ça ne va pas, erreur, je m'attendais à un booléen ». Donc ça, c'est ce que vous avez dans beaucoup de langages de script, c'est ce que vous avez en Python, c'est ce que vous avez en Lisp. Et c'est quand même beaucoup mieux que de continuer l'exécution avec un résultat non spécifié, comme vous le feriez en assembleur, par exemple, ou en langage machine. L'autre approche, c'est le typage statique. L'idée, c'est d'analyser les termes avant même de commencer leur exécution et de rejeter statiquement, donc pendant cette analyse, avant l'exécution, ceux qui ne respectent pas notre discipline de bon typage. Et donc, c'est quoi cette analyse ? C'est quoi cette discipline ? Donc, c'est non seulement détecter les... Enfin, c'est essentiellement associer à chaque terme et chaque sous-terme un type et ensuite vérifier la cohérence, que ces types sont employés de manière cohérente. Exemple, donc notre fonction if b false true, d'accord, donc c'est la fonction, c'est la négation des booléens. Si on dit que le paramètre b est type bool, tout va bien. Le paramètre b est type bool, donc je peux faire un if dessus. Les deux branches ont un type booléen, donc c'est bien une fonction des booléens dans les booléens, et a priori, elle est tout va bien. Appliquer à un booléen, elle ne fera pas d'erreur. En revanche, maintenant, si j'essaie de l'appliquer à quelque chose qui n'est pas un booléen, qui n'a pas le type bool, comme lambda xx, là, j'ai une erreur statiquement. D'accord, ce programme est rejeté immédiatement. Je n'ai pas besoin d'attendre une étape de bêta-réduction ou un million d'étapes de bêta-réduction avant de voir l'erreur. Et si j'essaie de contourner le typage statique en lui disant « Mais non, en fait, B n'est pas de type bool, B est de type bool-flèche-bool, tu vas donc pouvoir t'appliquer à l'identité », là, c'est la définition de la fonction qui est rejetée immédiatement parce que je ne peux pas faire « if » sur un argument qui n'a pas le type bool, qui a le type bool-flèche-bool. D'accord. Donc voilà le genre de raisonnement que fait un système de type et un vérificateur de type. Et ça se spécifie de manière très, très simple, par d'abord une algèbre de type, donc des expressions de type, donc qui vont décrire des ensembles de valeurs, des formes possibles pour les valeurs. Alors là, aujourd'hui, on va faire les types simples. C'est Church, je crois, qui a... En 1942, on a introduit un type simple pour le lambda calcul. Et donc, comme Church, on va utiliser des types, tau, sigma, qui sont soit des types de base, nous on n'en a qu'un, c'est le type des booléens, lui il en avait des entiers et des propositions logiques, je crois, et puis un type flèche, sigma flèche tau, qui dénote le type des fonctions qui prennent des arguments de type sigma et produisent des résultats de type tau. Et ensuite, on se donne des règles de typage, donc qui nous spécifie quand est-ce qu'un programme est bien typé ou pas, est bien typé et quels sont ses types possibles. Alors, on pourrait croire que c'est juste une relation entre un programme M et un terme, entre un terme M et un type taux. En fait, comme il peut y avoir des variables libres, on est en train de typer le corps d'une fonction, par exemple, on a aussi un contexte gamma. Et donc, ça se lit, dans le contexte gamma, le terme M a le type taux. Et le contexte, c'est une liste d'hypothèses sur les variables qui peuvent être libres. Donc, X1 de type taux 1, donc X1 peut être utilisé dans M, mais avec le type taux 1, Xn, taux n, etc. Et les règles, alors comme d'habitude, ce prédicat est spécifié par des règles de déduction. Donc au début, vous avez les règles du lambda calcul simplement typées. Donc la première pour les variables, qui dit que sous les hypothèses gamma, X a un type taux, si parmi vos hypothèses, vous avez supposé que X a le type taux, donc c'est la tautologie, d'accord. Si X a le type taux, alors X a le type taux. La règle de l'abstraction de fonction, sous l'hypothèse gamma, lambda x.m a un type de fonction, sigma flèche taux, à condition que, en supposant X de type sigma, m a le type taux. Et pour une application, donc m appliqué à n, a un certain type taux, pourvu que m est un type de fonction, un type de fonction qui renvoie un résultat type taux, il faut que ce soit le même type ici et là, un type de fonction donc, qui attend un argument de type sigma, et il faut que l'argument effectif n soit de type sigma. D'accord ? Donc ça, on vérifie à la fois donc, la partie fonction a bien un type de fonction, et que ce type est compatible avec le type de l'argument qu'on lui donne. Et maintenant, pour étendre au booléen, c'est pas compliqué, on dit que les constantes true et false ont le type bool, dans tous les contextes. Et la conditionnelle, if m np, elle a un type, est bien typée de type taux, si m est un booléen, elle type bool, et n et p, les branches n et else, ont toutes les deux le type taux. D'accord ? Donc voilà, donc là on a spécifié notre système de type, et encore une fois, ça s'exprime très très simplement avec un assistant à la démonstration. Donc l'algèbre des types, c'est un type inductif. Alors ne pas confondre petit type, qui est les expressions de type de mon langage FUN, et grand type, qui est la sorte coque des types de données. D'accord ? Ici, je suis en train de dire que les expressions de type sont des types de données comme les autres. Et ça deviendra encore plus confus plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc, nos contextes, on va les représenter très concrètement par des listes d'associations, des listes de chaînes croix type. Donc, ça, c'est le nom de la variable, ça, c'est le type associé à la variable. Alors, sur le papier, il y a cette convention que dans un contexte, chaque variable n'apparaît qu'une fois. Du coup, ce n'est pas ambigu de savoir. Une variable ne peut pas apparaître avec deux types différents. Ici, a priori, une variable peut apparaître deux fois dans un contexte, et donc, on fait très attention à spécifier le lookup, l'accès dans le contexte, qui va prendre la première déclaration, celle qui apparaît en premier dans la liste. Et donc ça, c'est juste la recherche en liste d'association. Et maintenant, on a nos règles de typage, avec une jolie petite notation que j'emprunte à Benjamin Pierce. Donc ce prédicat a trois paramètres, contexte, terme, type, et avec une notation, dans E, A, L, type, T. Cinq règles. Cinq constructeurs, les cinq règles qu'on a vues. La règle des variables, où on dit que le T doit être le type associé à X dans E. L'abstraction, où on ajoute l'hypothèse que X a le type T en tête de l'environnement E. L'application, la constante et la conditionnelle. Alors bien sûr, ça c'est juste une spécification du système de type. D'accord ? Si maintenant vous voulez l'utiliser dans une implémentation d'un langage, il va falloir réaliser un tipeur, donc une fonction qui va... donc ça, c'est un exercice que je vous donne un peu plus loin. On a envie plutôt d'une fonction qui, étant donné un contexte et un terme, vous dit oui, il est bien typé, voici son type, ou non, il n'est pas bien typé. Et ça, pour un système de type aussi simple que celui qu'on vient de voir, ça s'écrit sans grande difficulté et ça se prouve équivalent. Donc je vous laisse regarder ça si ça vous intéresse. Ce qu'on va faire maintenant plutôt, c'est de voir si notre système de type fait bien son boulot. Au sens de la célèbre phrase de Robin Milner, « Well-typed programs do not go wrong ». Donc un programme qui est bien typé, dans le contexte vide, ce qui force à être clos, un programme donc qui est bien typé, ne devrait pas faire d'erreur à l'exécution, du genre de true appliqué à une fonction ou if appliqué à, ou if sur une fonction. True appliqué comme si c'était une fonction ou if appliqué sur quelque chose qui n'est pas un booléen. Et donc, souvenez-vous, dans les sémantiques à réduction, d'accord, on a trois comportements possibles pour un terme M. Soit il se réduit finiment en une valeur, soit c'est la terminaison normale, soit il se réduit finiment en un terme N qui ne se réduit pas, qui n'est pas une valeur. Par exemple, true appliqué à une lambda, ça n'est pas une valeur, il n'y a pas de règle de réduction. Ou alors il se réduit infiniment, et ça c'est la divergence. Et donc la propriété de sûreté du typage, c'est que si votre terme de départ M est bien typé, dans l'environnement vide, alors ce deuxième cas, terminaison en erreur, est impossible. Well-typed programs do not go wrong. Et alors, il y a une autre propriété que certains systèmes de type ont, qui est la normalisation, qui est que le cas divergence est impossible également. Ça, on en reparlera plutôt la semaine prochaine. Généralement, les langages de programmation fonctionnelle, comme Haskell ou Camel, n'interdisent pas la divergence. D'accord ? Au contraire, ils ont des lettres REC, de la récursion primitive, pour pouvoir faire définir des fonctions récursives générales. Donc, on ne va pas parler de normalisation aujourd'hui. En revanche, la sûreté du typage, c'est vraiment la propriété essentielle qu'on veut assurer. Et donc, voyons voir comment on la démontre. De la même manière qu'il y a eu des modes en sémantique, qu'on avait vu un peu lors du premier cours, il y a eu des modes sur comment démontrer la sûreté d'un système de type. Donc, dans les années 75-85, c'est en utilisant des sémantiques dénotationnelles. Un très bel article qui montre cette approche à l'œuvre. Donc l'idée, c'est qu'on écrit une sémantique dénotationnelle pour notre langage. Donc à chaque terme, on associe une dénotation qui est un domaine, un élément d'un domaine, avec un point spécial R qui représente les termes erronés. Par exemple, la dénotation de true appliquée à lambda xx, ça va être R. Donc par exemple, on aurait un domaine D qui est isomorphe au booléen avec un bottom, aux fonctions continues, plus les fonctions continues des D dans D, plus le singleton error. Et ensuite, on interprète les types, les expressions de type, par des ensembles, des sous-ensembles du domaine, alors qui ont un peu de structure, on appelle ça des idéaux. Ils sont clos par sous-approximation et par limite croissante. Et crucialement, pour aucun type taux, l'interprétation taux ne contient erreur. D'accord ? Donc erreur n'est pas une valeur acceptable d'aucun type. Et là, on montre que si un terme M a un type taux, d'après les règles de typage, alors sa dénotation appartient à la dénotation du type taux. Et comme cette dénotation ne contient pas erreur, il n'est pas possible que le terme dénote une erreur. Alors après, environ début des années 80 jusque vers 95, on a beaucoup utilisé de sémantique naturelle. Et ça, c'est très joliment développé dans la thèse de Matt Stofte, et qui a ensuite servi de base au formalisme utilisé dans la définition formelle de standard ML. L'idée est d'écrire deux sémantiques naturelles. Une, M se termine sur une valeur V, qui correspond à la terminaison normale, et l'autre, M se termine sur en erreur, qui est la terminaison en erreur. Et là aussi, on peut écrire des règles qui décrivent tous les cas d'erreur possibles d'une sémantique. Ce n'est pas très joli, mais on peut l'écrire. Et du coup, ce qu'on démontre, c'est que donc, si on peut dériver que M a le type taux dans sens d'hypothèse, alors il est impossible que M s'évalue en erreur, et de plus, pour toute valeur V telle que M s'évalue en V, V appartient au type taux, ou V a le type taux. Et donc c'est ça qui permet de faire passer la récurrence ensuite. Et puis, depuis 1995, il y a une technique qui est devenue complètement standard, donc qui a été proposée dans cet article de Wright et Feilhausen, que j'ai déjà mentionné, pour l'idée des sémantiques avec réduction sous contexte. Et leur idée, en fait, c'est juste d'utiliser une sémantique à réduction et de montrer deux propriétés qui font intervenir à la fois réduction et typage, la propriété de progression et la propriété de préservation, et la sûreté du typage suit naturellement. Alors, c'est quoi la propriété de progression ? C'est le fait qu'un programme bien typé ne produit pas immédiatement une erreur. Donc, votre programme ne bloque pas dès le début. Donc, soit il est déjà une valeur et il a terminé, soit il se réduit. Et donc, la démonstration utilise un lemme qui détermine les formes des valeurs suivant leur type, donc le lemme des formes canoniques. Par exemple, qu'une valeur close de type flèche est forcément une lambda abstraction, ou une valeur close de type bool est forcément la constante true ou la constante false. Et puis l'autre propriété, c'est celle qui permet de voir ce qui se passe plus loin, après des réductions du programme, c'est le fait que le bon typage est préservé par les étapes de réduction. Donc ça s'appelle préservation en français. Dans la littérature en anglais, ça s'appelle souvent subject reduction, qui est une expression obscure qui vient de la logique mathématique, en fait, la théorie de la démonstration. C'est ce qu'on fait en termes de réduction sur des lambda termes, ça peut aussi s'exprimer en termes de normalisation, d'élimination des coupures dans des démonstrations. Et donc, du côté logique, c'est le fait que l'élimination des coupures préserve la conclusion de la démonstration, donc préserve le sujet. Bon. Mais je n'aime pas ce jargon, donc on va parler de préservation, du typage par réduction. Et c'est tout simplement que si vous avez un terme M de type taux, sous certaines hypothèses gamma, et que le terme se réduit en n, alors n a aussi le type taux. Et ça, alors c'est la démonstration la plus technique, en particulier parce qu'elle utilise deux lemmes. Il faut raisonner sur les substitutions. Donc si vous avez un terme m qui est bien typé de type taux sous l'hypothèse que x a le type sigma, et un terme n de type sigma, alors vous pouvez remplacer x par n dans m, et il aura encore le type taux, avec une chirurgie sur les environnements qui est non triviale. On va en reparler dans une minute. Et ça, à son tour, ça utilise un lemme d'affaiblissement qui est assez trivial, qui consiste à dire que si M a un type taux sous certaines hypothèses, vous pouvez ajouter davantage d'hypothèses qui ne servent à rien. Et le terme est toujours le bon type. Et une fois qu'on a montré ces deux choses, c'est évident que well-type programs do not go wrong. Parce que si on suppose notre programme M bien typé, justement, qu'il se termine en erreur, donc il se réduit finiment sur N, qui ne se réduit pas, qui n'est pas une valeur, en itérant la préservation, M a le type taux, donc son réduit a le type taux, son deuxième réduit a le type taux, donc N a le type taux, et par progression, ou bien N est une valeur, ce qui contredit ça, ou bien N se réduit, ce qui contredit ça. Donc c'est juste pas possible. Voilà, donc ça c'est la matrice d'un très grand nombre de démonstrations de sûreté, d'un très grand nombre de systèmes de types différents. Et alors voyons comment on peut formaliser ça. Donc ça c'est l'affaiblissement, un des premiers lemmes dont on a besoin. Le fait que si A a le type T sous des hypothèses E, dans un contexte E, alors A a le type T dans un contexte E' qui contient E. Et j'exprime ce fait, le E' contient E, de manière un peu différente de sur les transparents, de manière très très explicite, en disant que si E associe à une variable X un certain type TX, E' doit associer à la même variable X le même type. D'accord ? Après, E' peut associer d'autres types à d'autres variables, mais ne doit pas changer les associations qui sont déjà dans E. Et avec ça, la démonstration est extrêmement facile, d'accord, c'est presque entièrement automatique. Et pour la stabilité du typage par substitution, on utilise une astuce similaire pour relier le contexte E dans lequel le terme A est typé avant substitution et le terme E' dans lequel le résultat de la substitution est typé. D'accord. Et donc le lien il est ici, c'est que E' pour toute variable qui est liée dans E autre que X, E' doit associer le même type. En revanche, dans E', a priori, il n'y a pas besoin qu'il y ait une association pour X, puisqu'on a supprimé X par substitution. En revanche, il faut que X soit dans l'environnement E initial, avec un certain type T', qui est le type de C, le type du terme qu'on met à la place de X. Et enfin, puisque notre substitution est un peu bancale et peut capturer des termes dans certains cas, des variables dans certains cas, on exige que C, le terme qu'on substitue pour X, soit clos, c'est-à-dire typable dans l'environnement vide, typable sans aucune hypothèse. D'accord ? Et c'est ça qui nous sauve, c'est ça qui fait que notre substitution bancale est en fait utilisable. Là, on a le lemme des formes canoniques. Bon, donc si votre valeur a un type booléen, alors elle est de la forme const B, si elle a un type fonction, alors elle est de la forme abs XA. Et du coup, ben, on montre réduction et progression de manière assez simple pour réduction. C'est essentiellement une récurrence sur la dérivation de la réduction avec deux cas de base, la bêta réduction, la réduction des conditionnels, et trois cas de réduction à gauche ou à droite ou sous une conditionnelle, qui sont des applications triviales de l'hypothèse de récurrence. Et pour la bêta, évidemment, vu qu'on fait une substitution, c'est là qu'on utilise notre lemme de préservation de typage par substitution. Pour la progression, donc c'est ici, donc si A a un type taux sans hypothèse, soit A est une valeur, soit il se réduit. Et là, il y a une petite combinatoire. Donc une abstraction est une valeur, donc c'est trivial. Une constante est une valeur, c'est trivial. Pour une conditionnelle, par exemple, récursivement, on se demande est-ce que A est une valeur ou se réduit. Si A est une valeur, par les formes canoniques, c'est forcément un booléen. Donc on se réduit soit dans la branche gène, soit dans la branche else. Si A se réduit, on peut réduire la conditionnelle elle-même en compte A' de if so, if not. Et pour l'application, c'est pareil, sauf que la combinatoire est un peu plus compliquée. Soit A1 est une valeur, soit A1 se réduit. Soit A2 est une valeur, soit A2 se réduit. Voilà. En corollaire, un terme bien typé ne peut pas faire d'erreur. Donc ça, c'est exactement la démonstration qui est sur le transparent. Alors, j'ai jamais aimé cet énoncé, parce qu'il est très doublement négatif. D'accord ? Un terme bien typé ne peut pas se réduire en un terme qui ne peut pas se réduire et n'est pas une valeur. Ça fait trop de négations. Vous savez, je suis un peu constructiviste sur les bords. Et donc, à force de faire du coq, et donc, je vous présente une reformulation qui est complètement positive et qui utilise de la co-induction. En fait, c'est un de ces prédicats co-inductifs qu'on avait vu en passant la semaine dernière. On avait dit, mais il sert à rien. En fait, si. Donc, c'est le prédicat safe qui prend un terme et qui vous dit le terme se réduit sans erreur. Il y a deux cas, deux constructeurs. Soit le terme est une valeur, auquel cas il s'arrête et il n'y a pas eu d'erreur. Soit le terme A se réduit en A' et A' est safe, ne fait pas d'erreur non plus. Donc si c'était un prédicat inductif, d'accord, c'est juste dire ben, mon terme se réduit en une valeur, finiment. Mais comme il est co-inductif, je peux aussi appliquer la règle safe-red infiniment, un nombre infini de fois, ce qui correspond à un terme qui diverge. En revanche, ce qui est exclu ici, c'est un terme qui se bloque sur quelque chose qui n'est pas une valeur. D'accord. Et du coup, on peut dire que les programmes bien typés sont sûrs, au sens que si A a le type taux dans l'environnement vide, alors safe de A. Et la démonstration est une co-induction, bien sûr, et une combinaison immédiate des lemmes de progression et de préservation. Voilà. Alors, encore, si vous aimez bricoler du coq, il y a beaucoup d'extensions qui peuvent être faites. Encore une fois, ajouter les entiers, les produits, les sommes, les points fixes. Donc, ajouter les règles de typage, voir ce qui change dans les démonstrations de sûreté du typage. Et alors, un autre exercice que j'adore, encore une fois, j'aime bien la co-induction, vous le savez, qui est de prendre le lambda calcul simplement typé et de dire les expressions de type sont co-inductives maintenant. Et donc, ça veut dire que parmi les types, on a maintenant en plus des expressions de type infini, comme boule, flèche, boule, flèche, boule, flèche, boule, flèche, boule, flèche, boule, qui est une fonction qui attend un nombre infini d'arguments de type boule. Et alors, ce que j'aime bien dans cet exercice, c'est que donc, vous rajoutez deux lettres, C, O, et vous voyez que toutes les démonstrations passent sans aucun changement. Ce qui veut dire que nos démonstrations de sûreté du typage sont très robustes. Elles ne font nulle part l'hypothèse que les types sont finis. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on gagne à faire cet exercice idiot ? C'est que maintenant, on peut typer le combinateur de points fixes Y, qui n'est pas typable normalement avec des types simples finis. Et donc, c'est ça l'exercice. D'accord. Donc, je prétends qu'on peut lui donner le type T flèche T flèche T pour tout type T. Et donc, rien qu'en en mettant des types récursifs, on a... maintenant, un langage qui a la récursion générale. D'accord ? Ce qui n'était pas évident au départ. Très bien. Et puis, oui, donc il y a l'exercice sur le. D'écrire une fonction de typage, un type checker. Alors, après, j'ai un choix délicat, qui est que je n'ai pas assez de temps pour faire ce que je voulais vous faire. Donc, je vais passer très rapidement sur le sous-typage, vous présenter ça un peu hypocritement comme un exercice. Donc le sous-typage, c'est une extension assez naturelle du typage où, rappelez-vous, on n'additionne pas les choux et les carottes, mais N'empêche que les choux, c'est des légumes, les carottes, c'est des légumes, et donc 2 choux plus 3 carottes égale 5 légumes. D'accord ? Ça, c'est parfaitement correct. Et on peut donc dire que chou est sous-type de légumes, car tout chou est un légume, et carotte est sous-type de légumes aussi. Et faire un typage des légumes en utilisant cette propriété supplémentaire. De même, alors un peu plus informatique, on peut dire que booléen est sous-type de int, d'accord, puisque les booléens, ça a pour valeur 0 et 1, qui sont deux valeurs entières parmi d'autres. Donc toute valeur booléenne peut être vue comme une valeur entière. Et donc ça rajoute pas mal de flexibilité au système de type. Ça fait ce qu'on appelle du polymorphisme de sous-typage, qui est très très employé dans les langages à objets, parce qu'un objet avec plus de méthodes, on peut voir ça comme un sous-type d'un objet qui a moins de méthodes. Et donc là, on fait comme exercice le plus simple des sous-typages. On rajoute à l'algèbre de type un type top de toutes les valeurs. C'est un peu comme le type object en Java. D'accord, tous les objets sont aussi de toutes les classes. Toutes les classes sont sous-type de object. Et là, on va dire que tous les types sont sous-type du booléen de top. Et donc ça, c'est spécifié par les trois règles. Donc tout type est sous-type de top. Booléen est sous-type de lui-même. Et un type de fonction est sous-type d'un autre type de fonction si, c'est essentiellement la règle d'inclusion des ensembles de fonctions, d'accord. Les types résultats sont inclus dans le même sens, sont sous-types dans le même sens, et les types arguments sont inclus son sous-type dans l'autre sens. On appelle ça la contravariance. Alors, on a des propriétés triviales. Tout type est sous-type de lui-même. La relation de sous-typage est transitive. Et maintenant, dans notre système de type, on ajoute une règle dite de subsomption qui dit que si j'ai pu montrer que A a le type S et que S est sous-type de T, alors j'ai aussi montré que A a le type T. Si si A est du type chou, alors A est aussi du type légume. Si A est de la classe string en Java, il est aussi de la classe object. Donc ça, c'est la règle de subsomption qui rajoute donc un cas dans notre système de type. Et donc l'exercice, c'est de faire la preuve de sûreté de ça. Et encore une fois, on se rend compte que beaucoup de lemmes passent tel quel, ou avec juste un cas de plus dans l'épreuve, puisqu'on a une règle de typage en plus. Et puis, il y a un moment quand même dans la démonstration de préservation où ça commence à coincer et on éprouve le besoin de lemmes supplémentaires que d'ailleurs je vous ai écrit. Et alors pourquoi j'aime ce genre d'exercice ? Parce que, justement, c'est très utile de savoir rapidement, quand on change quelque chose, un programme, un système formel, quel est l'impact de ce changement ? D'accord ? Quelles sont les parties qu'on peut conserver à l'identique ? Quelles sont les parties qui ont besoin d'un petit ajustement ? Et quelles sont les parties qui ont besoin d'être repensées complètement ? Et ce n'est pas toujours facile à faire sur papier. Sur papier, on a tendance à dire que tout passe. Il n'y a que des petits changements. D'accord ? Et avec un assistant à la démonstration, justement, on voit très très vite où sont les vrais changements. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est un bon outil de travail pour la recherche en langage de programmation. Bien, mais je voulais du coup vous parler d'une autre approche, d'une autre présentation des langages typés, qui sont les termes intrinsèquement typés. Alors, Philippe Wadler, dans le premier séminaire en décembre, on avait un peu parlé, donc c'est l'approche que lui a développée dans son cours cours qui utilise AGDA, dont il nous a parlé. Mais je trouvais qu'il en a parlé un peu vite, donc je voudrais vous le réexpliquer un peu plus calmement. Et deux, vous montrer que ça marche en coq aussi, quand même. On a cette petite fierté. Et en fait, ça remonte, c'est deux visions du typage, et qui remontent au père fondateur du lambda calcul. D'accord, l'une des visions est attribuée à Church et l'autre à Curry, qui était un de ses premiers doctorants. Ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est la vision dite extrinsèque, ou la vision de Curry, où on commence par définir la syntaxe abstraite et la sémantique dynamique, indépendamment du système de type. On commence par définir le lambda calcul avec booléen. D'accord, syntaxe, règle de réduction. Et après, on définit un système de type qui est un filtre D'accord, il laisse passer certains termes et il élimine d'autres, qui sont des termes à problème, des termes dont la sémantique est bizarre. Et c'est un peu comme de faire tourner une analyse statique sur un programme. D'accord. Church et d'autres ont une vision différente, une vision intrinsèque, qui est que le système de type fait partie de la définition des termes du langage. D'accord. On ne peut même pas parler de termes qui ne sont pas bien typés. On n'a juste pas les mots pour ça. C'est un peu comme la novlangue de 1984, cet anglais appauvri, dans lequel il est extrêmement difficile d'exprimer une opinion dissidente. D'accord. Dans la novlangue idéale, on ne peut exprimer que la ligne du parti. Alors, je ne suis pas en train de dire que le système de type, c'est la ligne du parti, mais enfin, si, après tout, si vous voulez. Et donc, cette idée, on la retrouve dès le papier de Church sur le landais calcul simplement typé en 1942. Et il commence en disant, bon, alors, j'ai une grammaire des termes, M, indicée par les types tau. D'accord. Et donc, un terme de type tau, c'est soit une variable de type tau, il a une infinité de variables pour chaque type, soit une application d'un terme de la catégorie grammaticale sigma flèche tau à un terme de la catégorie grammaticale sigma pour un certain sigma, soit le tau que j'ai ici est en fait de la forme sigma flèche tau, et alors j'ai aussi lambda d'une variable x de la catégorie sigma et d'un terme m de la catégorie tau. Donc dès la grammaire, d'une certaine manière, prédéfini les termes bien typés, et un terme mal typé, il ne peut même pas s'exprimer. Et alors quel est l'avantage ? Ben, c'est que du coup, il y a moins de travail pour exprimer la sémantique, parce que la sémantique, elle est définie uniquement sur les termes typés. D'accord ? Donc il y a moins de termes à considérer dans la sémantique. Et on va voir que ça peut être un avantage si on arrive à bien en tirer parti. Alors, la vision intrinsèque, elle a été assez vite oubliée après les premiers papiers de Church, d'accord, parce que la vision extrinsèque fonctionne très très bien sur papier. Et en plus, n'utilise que des mathématiques vraiment élémentaires. On a des termes, et puis et on raisonne là-dessus. Et la vision intrinsèque, elle est revenue à la mode, si j'ose dire, avec les langages à type dépendant, ou juste les langages avec des types algébriques généralisés, des GADT. Donc les GADT, c'est ce que vous avez en Haskell ou en OCaml. Les types dépendants, les familles inductives, c'est quelque chose de plus général, ce que vous avez notamment en Coq et en ACDA. Et donc, en Coq, ACDA, vous pouvez écrire un type des termes qui a deux paramètres. Donc, de la même manière que list est paramétré par le type des arguments, le type des termes est paramétré par un contexte, gamma, et une expression de type tau. Alors, les paramètres sont des valeurs, ne sont pas des types. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle des types dépendants dans toute leur généralité. Et du coup, les constructeurs ont des termes très très précis. Par exemple, const, qui construit des termes qui représentent des constantes booléennes, prend un booléen de Coq, true ou false, et vous produit un terme dont le type fun est bool, grand bool, dans n'importe quel contexte gamma. Une conditionnelle, d'habitude une conditionnelle ça prend trois termes, le if, then, else, d'accord, donc les trois termes correspondant au if, then et au else, et ça vous rend un terme. Là, ça prend trois termes avec des types très bien choisis, un terme qui a le type imp, le type bool, fun bool dans gamma, c'est la partie if, un terme qui a le type tau, un autre, c'est la partie then, un terme qui a le type tau, c'est la partie else, et ça vous rend un terme qui a le type tau. Donc votre if then else est bien typé par construction. Pour une application, bah c'est pareil, c'est en fait essentiellement la grammaire de Church hein, qu'on est en train de transcrire. Si y a deux sous-termes, le premier représente la fonction, donc il doit avoir un type fun sigma tau, pour un certain sigma, un certain tau. Le deuxième, c'est l'argument, doit avoir le type sigma. Le résultat de l'application est un terme qui a le type tau. Et puis, pour l'abstraction et les variables, c'est là qu'on va travailler un petit peu, d'où les points d'interrogation, mais l'idée, c'est que l'abstraction, ben, ça porte un sous-terme, qui est le corps de la fonction, qui doit avoir un type tau sous une hypothèse supplémentaire sigma, et à ce moment-là, votre terme abs de quelque chose va avoir le type fun sigma tau. Et pour une variable, donc a priori, c'est une variable bien formée dans le contexte gamma de type tau, vous donne un terme bien formé de type tau dans le contexte gamma. Alors, regardons un peu plus comment on représente les variables. Donc, dans cette vision intrinsèque, une variable, essentiellement, ça désigne une des entrées du contexte. Encore une fois, il est impossible de parler d'une variable non décrite par le contexte. D'accord ? C'est une absurdité, c'est pas bien typé, donc on doit s'interdire d'en parler, c'est le tabou ultime. Donc une variable, c'est la même chose qu'un pointeur, un désignateur d'une entrée du contexte. Et une fois qu'on a désigné de manière unique une entrée du contexte, on a le type de la variable, bien sûr. Alors on peut utiliser des noms pour désigner, mais il faut quand même s'assurer que ce n'est pas n'importe quelle chaîne de caractères, c'est un nom qui apparaît dans l'environnement, dans le contexte, pardon. Et puis, nos problèmes avec le renommage, qu'on ne sait pas très bien gérer, vont revenir nous faire souffrir. Et donc, je vous propose une autre approche, qui est d'ailleurs celle que Philippe Wadler avait montrée aussi dans son exposé, qui est de désigner par une position. Et qui est, dans cette approche, assez naturelle. Un contexte, on peut voir ça comme une liste, d'accord, une liste des types des variables, dans l'ordre dans lequel elles ont été introduites, par exemple. Et du coup, une entrée dans le contexte, c'est une position dans la liste, c'est un entier entre 1 et la longueur de la liste, et cet entier identifie la variable. Et là, on vient de réinventer la notation dite de De Bruyne, qui date de 1972 environ. Donc De Bruyne, c'était un mathématicien néerlandais qui a fait plein de jolis théorèmes, mais c'est aussi un pionnier dans les mathématiques assistées par ordinateur. Et donc dès 1970, il a imaginé et réalisé le système Automas, qui est peut-être vraiment le grand ancêtre des assistants à la démonstration d'aujourd'hui, le grand ancêtre de Koch ou d'Isabelle Hochel, par exemple, ou de Hochel. À l'époque, dans les années 70, bien sûr, tout le monde voulait déjà faire de l'intelligence artificielle et notamment de la démonstration automatique. D'accord ? L'idée, c'est qu'on donne un énoncé à l'ordinateur et il doit trouver la démonstration tout seul. Et De Bruyne, lui, il avait une ambition beaucoup plus modeste, mais tout à fait utile aussi, qui était de dire « Non, je ne veux pas forcément que l'ordinateur trouve les démonstrations, je veux déjà pouvoir exprimer mes définitions, mes théorèmes et mes démonstrations dans un langage que comprend l'ordinateur. » Il appelait ça le vernaculaire mathématique. Et je veux que l'ordinateur puisse vérifier mes démonstrations. D'accord ? Donc l'équivalent du QED en Coq qui revérifie toute la démonstration. Il avait déjà l'idée de matérialiser les démonstrations par des lambda termes. D'accord ? Et, enfin bref, beaucoup d'idées qu'on retrouve aujourd'hui dans les assistants de preuves modernes. Et du coup, vu qu'il avait des lambda termes, vu qu'il avait des lieurs dans les notations mathématiques, les pour-tout, les il existe, là aussi il y a des variables muettes, des variables liées qui sont à alpha conversion près, et il s'était bien rendu compte qu'il y avait un problème, et il avait proposé comme solution de, en interne, ne pas utiliser de nom, utiliser des positions. Une variable, c'est une position par rapport à la lambda abstraction ou au quantificateur qui la lie. Et donc n, c'est la variable liée par le nème lambda englobant. Et par exemple, ici, on a un petit terme, lambda x, lambda y, y, x, x, en notation usuelle. Le y qui est ici, c'est la variable de Debrun d'indice 1, puisqu'il est lié par le premier lambda englobant. Le x qui est ici, c'est la variable d'indice 2, en notation de De Bruyne, puisqu'il est lié non pas par le premier, mais par le deuxième lambda englobant. Et en revanche, cette autre occurrence de x, qui, elle, n'est pas sous ce lambda y, c'est l'indice 1, puisque c'est le premier lambda englobant. Donc vous voyez qu'une même variable peut avoir des indices différents suivant l'endroit où elle apparaît, ce qui n'est pas forcément très intuitif. Mais une force énorme de la notation de De Bruyne, c'est qu'il n'y a pas besoin d'alpha conversion. Deux termes qui sont alpha convertibles en notation usuelle, une fois codés en notation de Debrun, ils sont égaux. Lambda xx, lambda yy, c'est lambda 1. Oui, j'ai oublié de dire aussi, maintenant que les variables, c'est des positions, on n'a plus besoin d'annoter les lambdas par des variables, par la variable qui est liée. Implicitement, c'est la variable d'indice 1, toujours. Voilà. Et du coup, ça se combine très très bien avec l'approche intrinsèquement typée. Donc un contexte et une liste de types, tau1, tau2, tau n. Tau i, c'est le type de la variable d'indice i, dans la notation de Brown. Et le type var gamma tau, des variables qui ont le type tau dans le contexte gamma, c'est essentiellement isomorphe aux entiers compris entre 1 et la taille de gamma. Et on les présente un peu à la manière des entiers de Peano. Donc les entiers de Peano, c'est 0 et successeur. Là, on a un constructeur 1, on commence à 1, et un constructeur successeur. V1, il dit que dans un contexte où la première variable a le type tau, on a une variable de type tau, et c'est la première variable. VS, il nous dit que si on a une variable de type tau dans un contexte gamma, alors on a une variable de type tau dans le contexte sigma cons gamma, le contexte où on a rajouté une variable en tête. Et donc ça, c'est le successeur. Par exemple, VS de V1, successeur de V1, que j'appelle V2, a pour type une variable qui, dans tout contexte de la forme tau1 cons tau2 cons gamma, a le type tau2. V3, dans tout contexte de la forme tau1, tau2, tau3, a le type tau3. D'accord ? Donc on voit bien qu'on désigne une position dans l'environnement et qu'on en extrait le type. Et avec ça, eh bien, on peut comprendre les définitions Koch, qui sont vraiment une transcription de ce que je viens de dire. Donc le type des variables, qui est indicé par un contexte et par un type, avec les deux constructeurs, V1 et VS. Les variables V2, V3, vous voyez que Koch est d'accord sur les types qu'on a donnés. Et puis le type des termes, ayant le type T dans le contexte E. Et donc ça, c'est essentiellement les types qu'on a donnés sur papier, avec en plus des quantifications pour les contextes et les types. Quantification, alors j'utilise les accolades pour dire c'est des arguments implicites, pour demander à Koch d'essayer de les inférer. Comme ça, je ne suis pas obligé de les écrire. Qu'est-ce qu'il faut remarquer ? Il faut remarquer aussi que si vous clignez des yeux, ça ressemble beaucoup au jugement de typage, au prédicat hashtype. D'accord ? On a à peu près les mêmes formes pour les prémices et pour les conclusions. Sauf que là, on n'a pas une syntaxe puis un prédicat sur cette syntaxe, on n'a qu'une syntaxe. Quelques exemples de termes. Que vous voyez que ça marche bien. Donc la fonction négation booléenne, la fonction qui a B associe if B is then false else true, c'est l'abstraction d'une conditionnelle sur la variable V1, la première variable, celle qui est liée par l'abstraction, const false, const true. Et là, Koch est tout à fait d'accord sur le fait que c'est un terme qui, dans l'environnement vide, a le type bool, flèche bool. Un peu plus compliqué, la composition de fonction. Donc pour tout type T1, T2, T3, si vous lui donnez une fonction T1, T2, de T1 dans T2, une fonction de T2 dans T3, elle vous rend une fonction de T1 dans T3. Et là, alors, faut pas se prendre les pieds dans le tapis avec les indices de Debrun, mais d'ailleurs, si on le fait, on obtient une erreur de type. Donc, là, on a un exemple de terme mal typé, et donc impossible à exprimer. D'accord, un terme dissident. Qu'est-ce qu'on fait là ? Oui, on fait une conditionnelle sur la fonction identité, abs de var de V1. Et ça, quel que soit le type d'ailleurs que vous lui proposez, Koch rejette, avec un message d'erreur qui est d'ailleurs assez clair, qui dit que non, ça c'est un type de type, c'est un terme de type flèche quelque chose, et qui ne peut pas être utilisé comme terme de boule. Bon. Mais le gros avantage, la grande richesse de cette approche arrive maintenant. C'est qu'elle permet de faire des sémantiques dénotationnelles qui sont très très élégantes. Et donc c'est vraiment un retour de cette approche dénotationnelle. Vous rappelez-vous, donc on interprète les termes par des éléments d'un domaine, d'un certain ensemble, et les types par des sous-ensembles. D'accord ? Et bien là, on va interpréter les termes par des valeurs Koch et les types par des types Koch. Et c'est en fait le typage de Koch qui va nous montrer. La cohérence de cette interprétation. Donc, parce qu'on a des types dépendants en Koch, on peut tout à fait associer un type Koch à chaque expression de type de notre langage. L'expression de type bool est associée au type Koch bool, petit bool. L'expression de type fun sigma tau, celle que je note avec une double flèche en Koch, c'est le type des fonctions Koch de l'interprétation de sigma dans l'interprétation de tau. Et de même, un contexte fun, qui est juste une liste de types, peut être interprété comme un type Koch, qui est le type des environnements d'évaluation. correspondre au contexte. Un environnement d'évaluation, ça associe une valeur à chaque variable du contexte. Donc c'est une liste hétérogène, parce que les valeurs ont des types différents, qu'on va représenter par des paires imbriquées, un arbre de paires imbriquées. Et donc, l'interprétation du contexte tau, cons, gamma, c'est une valeur de type l'interprétation de tau croît un environnement de type l'interprétation de gamma. Et ça se termine en disant que le contexte vide est interprété par le type trivial coq unit. Et du coup, étant donné un terme A, qui a le type terme gamma tau, on va l'interpréter comme une fonction coq de l'interprétation de l'environnement dans l'interprétation des valeurs, c'est-à-dire une fonction coq de l'environnement, l'interprétation du contexte, c'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire les valeurs des variables libres dans le terme, vers la valeur du terme. Et les cas, les équations qu'on peut écrire, c'est exactement les équations de la sémantique dénotationnelle naïve. Par exemple, je commence par la fin, la dénotation, l'interprétation d'une constante B dans n'importe quel environnement, c'est B, vu comme valeur coq de type petit boule, qui est l'interprétation de grand boule, qui est le type de cette expression. Une conditionnelle A1, A2, A3 va être interprétée comme le if-then-else des interprétations, d'accord, en particulier l'interprétation de A1 dans E, c'est de type boule en coq, puisque A1 est de type grand boule en fun. L'application, c'est la dénotation de l'application, c'est l'application des dénotations. Et encore une fois, cette dénotation, c'est une fonction coq, parce qu'elle a un type fun en hip. La dénotation d'une abstraction, c'est une fonction coq qui prend la dénotation du corps de la fonction en liant la variable d'indice 1 à x et les autres variables à ce qu'il y a dans E. Et puis pour les variables, donc la variable d'indice 1 est interprétée comme la première composante de l'environnement, la variable d'indice v plus 1 est interprétée comme la variable v dans la deuxième composante de l'environnement. Et donc ça, ce qui est assez extraordinaire, comme on va le voir tout de suite, c'est que rien qu'en transcrivant ça sous forme d'une fonction récursive en coq, vous obtenez une fonction qui est bien typée, qui est totale, parce que coq ne connaît pas les fonctions partielles ni les fonctions qui ne terminent pas. Et donc, d'une certaine manière, vous avez la sûreté du typage et la normalisation forte par construction. Votre langage de terme, votre newspeak de terme, il est tel que non seulement il n'y a pas d'erreur à l'exécution, et en plus ça termine, toujours. Par ailleurs, c'est une sémantique dénotationnelle, parce que satisfait les équations auxquelles on s'attend dans une sémantique dénotationnelle. Et enfin, elle est compatible avec les réductions. Donc on peut définir une relation de réduction et montrer que la dénotation du réduit, c'est la même chose que la dénotation du redex. Ce qui nous rassure un peu sur le fait qu'on a fait la bonne définition. Voilà, donc rapidement, je vous montre comment c'est fait en coq. Donc ça, c'est la fonction coq qui interprète une expression de type fun comme un type de coq, un élément de grand type, de la sorte grand type. Et c'est une fonction récursive qui renvoie des types. Aucun problème. Ça, c'est la fonction qui interprète les contextes comme un type, comme une imbrication de produits. Ça, c'est la sémantique dénotationnelle d'une variable. Donc étant donné une variable de type T dans le contexte E, et un environnement qui correspond au contexte, et vous renvoie une valeur qui correspond au type T, et c'est juste aller chercher la énième entrée de la liste hétérogène qui est l'environnement. Là, on a la sémantique dénotationnelle du terme, donc c'est essentiellement les équations que je vous ai montrées sur les transparents. D'accord. Et encore une fois, tout ça est bien typé, et termine structurellement sur A. Alors là où c'est moins joli, c'est quand après on essaye de définir une sémantique à réduction pour ne serait-ce que montrer une cohérence avec notre sémantique dénotationnelle, parce que par exemple il faut définir la substitution. Oula, je devrais retourner à la ligne de temps en temps. Donc la substitution, apparemment c'est pas trop compliqué, on a besoin de pouvoir substituer la variable d'indice 1 par B dans un terme A. Alors on a des types qui sont extrêmement précis, d'accord, qui nous disent quel doit être le type de A, le type de B pour que ça marche. Et puis, il doit satisfaire une équation qui, substituer, c'est la même chose que lier. Substituer 1 par, 1 par B dans A, c'est la même chose que lier 1 à la valeur de B avant d'évaluer A. Bon. Donc voilà, très joli type, très jolie spécification, et construction horrible, parce que, petit 1, on travaille essentiellement avec des indices de De Bruyne. Comme on verra la semaine prochaine, c'est pas facile. Il y a de la substitution, il y a du recalage d'indices, la fonction qui s'appelle lift. Les fonctions des types dépendants complexes, alors d'un côté, ça garantit qu'on ne peut pas trop se tromper, de l'autre, c'est difficile à exprimer en coq. Et puis, en fait, j'ai choisi aussi de montrer en même temps des équations sémantiques, comme en termes de exprimées avec des dénotations. Et du coup, bah, ça fait beaucoup de code à dérouler, qui est écrit essentiellement en style script de preuve. D'accord. Donc, c'est franchement beaucoup de code et pas très lisible. Donc ne regardez pas trop, mais à la fin on obtient ce qu'on voulait, c'est-à-dire la fonction subst1 qui vérifie la bonne équation sémantique. Et du coup, ben, la sémantique à réduction est très simple, c'est essentiellement la même que celle du langage typé de manière extrinsèque, sauf que, par exemple, la préservation du typage pendant la réduction est vraie par construction. La relation de réduction relie un terme qui a le type T dans E à un terme qui a le type T dans E. Il n'est pas possible de changer le type pendant la réduction. Et c'est les 5 cas usuels. Et du coup, la compatibilité entre réduction et dénotation, elle, est, se montre extrêmement simplement. D'accord, c'est essentiellement vrai par définition. Donc on a beaucoup souffert pour mettre en place la définition de la substitution, mais à la fin, tous les morceaux tombent ensemble. Voilà. Donc, pour conclure... Alors déjà, oui, quand même, pour parler... Pour conclure sur cette question entre approche intrinsèque et extrinsèque, alors l'approche intrinsèque ne marche pas toujours, ou peut être parfois difficile, il y a des limites. Une des premières limites, c'est que les traits du langage objet, fun, par exemple, le langage que vous voulez formaliser, doivent être disponibles ou encodables, sans trop de peine, dans le langage hôte, à savoir coq. Par exemple, si votre langage a des effets, y compris la divergence, eh bien, il va falloir faire un codage monadique. Et on a vu la semaine dernière que les monades pour coder la divergence, c'est possible, c'est un peu compliqué. Si vous avez du sous-typage, comme j'ai dit tout à l'heure, booléen et sous-type de entier ou carotte sous-type de légumes, il va falloir matérialiser ça dans votre syntaxe abstraite sous forme de coercion. Donc, en fait, le sous-typage, ça devient une coercion. Vous avez des fonctions totales qui vont de l'interprétation du sous-type dans l'interprétation du super-type, et ça, c'est très élégant. En revanche, il va falloir les appliquer explicitement, les matérialiser dans votre arbre de syntaxe abstraite. Si vous avez des traits avancés de système de type, comme par exemple le polymorphisme imprédicatif du système F, d'accord, dans le système F, vous pouvez écrire pour tout x, x flash x, c'est le type de la fonction identité, et spécialiser ça en instanciant x par son propre type. Ce qui vous donne pour tout x, x flash x, flash, pour tout x flash x. C'est tout à fait possible, mais en AGDA, par exemple, si vous essayez de traduire ça directement dans les types de AGDA, ce n'est pas possible. AGDA est prédicatif, on peut quantifier que sur des types plus petits que soi-même. Et coq, par défaut, excusez-moi, est prédicatif aussi. Et il faut sortir une obscure option de ligne de commande, moins un prédicatif 7, pour lui faire accepter des types pour tout un prédicatif. Et là, on n'est plus très sûr que coq est fiable, d'ailleurs, parce que... Bon, bref. Les interactions entre l'imprédicativité et d'autres parties du système, comme en particulier les axiomes classiques, n'est pas clair du tout. En plus, il faut une certaine puissance dans votre langage hôte. Il doit avoir des familles inductives, des GADT au minimum, de préférence des types dépendants. Donc vous ne pouvez pas faire ça en HOL, qui n'a pas de type dépendant. Vous ne pouvez pas faire ça en PVS, qui n'est pas vraiment typé. Vous pouvez... on se retrouve à expliquer des langages simples, comme fun, en termes d'un langage qui est plus complexe, d'accord, comme OCaml, Haskell, AGDA, Coq. Alors, d'un côté, c'est bien si on a beaucoup de langages simples qu'on veut expliquer dans un seul... Parce qu'on peut tous les expliquer dans un seul langage plus complexe, donc il suffit d'avoir confiance dans un langage plus complexe. De l'autre, ça va un peu à l'envers d'une démarche qui était plus... le fondationnel, de recherche de fondation, où on essaye de partir de choses simples pour expliquer des choses plus complexes ensuite. Et c'est vrai que l'approche extrinsèque, bien qu'elle soit très laborieuse, avec ses règles de réduction, avec ses règles de typage, avec ses lemmes de substitution et tout, vous pouvez faire l'approche extrinsèque d'un langage très complexe, avec des types très très riches, avec juste dans une logique qui est très très simple. Bon, voilà. Je vous laisse réfléchir. Et en guise de point d'étape, avant de s'arrêter et de prendre quelques questions, donc on a vu que les langages fonctionnels se mécanisent très bien dans l'ensemble, que ce soit la syntaxe, le sémantique, le typage. Modulo, quelques difficultés pour traiter les variables liées et l'alpha conversion, donc l'équivalence à renommage près des variables liées. On en reparlera la semaine prochaine. Alors, énormément de systèmes de type ont été mécanisés. Ça a été même peut-être une des premières applications des systèmes de type dans le domaine des assistants à la démonstration dans le domaine de la recherche en langage de programmation, y compris des traits avancés. Donc, on a esquissé le polymorphisme de sous-typage. La semaine prochaine, on parlera un peu de polymorphisme paramétrique, donc avec des pourtous qui quantifient des variables de type et de type dépendant, comme le type des termes dans la représentation intrinsèque. Voilà, et quelques références en bibliographie si vous voulez en savoir plus. Je vous remercie.